Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il y a deux genres d'acteurs, ceux avec lesquels une certaine distance ne sera jamais abolie, sauf à vivre dans leur environnement immédiat et de faire partie de leur tribu rapprochée. Par exemple, il est difficile de s'imaginer accoudé au zinc d'un bistrot avec Clint Eastwood à siroter un petit blanc limé tout en faisant des pronostics sur l'arrivée gagnant ou placé de Maladie d'amour au Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Et puis, il y a des acteurs dont on se sent naturellement proche au point que l'on pourrait très bien s'imaginer accoudé au zinc d'un bistrot à siroter un petit blanc limé, tout en faisant des pronostics sur l'arrivée gagnant ou placé de Maladie d'amour au Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Jean-Pierre Darroussin est de cela, accessible, d'une humanité qui déborde de l'écran ou de la scène, le vieux copain idéal avec qui on a envie de tailler le bout de gras pour parler aussi bien de littérature, de justice, de clairvoyance, des séquelles de la guerre d'Algérie ou d'Arthur Rimbaud, que de sa nécessaire réévaluation des montants compensatoires. Encore que, je vous rassure, nous éviterons soigneusement d'évoquer avec lui ce dernier sujet, les précédents risquant de nous occuper suffisamment dans l'heure qui vient. Jean-Pierre Darroussin est notre invité et pop, ben c'est parti.
France Inter, pop, Antoine de Caunes.
Oui, et bonjour, Jean-Pierre Darroussin.
Alors, bienvenue dans Pop, et pardon pour la voix stallonienne, parce que je viens tout juste de me rendre compte que j'ai confondu Rimbaud et Rambo.
Oui.
C'était extrêmement gênant. Excusez cette erreur de débutant. Ça ne se reproduira pas. Bon. Ensemble, nous allons donc parler de Rimbaud en feu. Votre pièce qui sera à découvrir au Théâtre Antoine à partir de jeudi. Comment vous sentez-vous d'ailleurs, à 48 heures de cette première dans ce théâtre au nom prestigieux, Antoine?
Je suis assez tranquille parce que ce spectacle, on l'a pas mal travaillé, on l'a créé, on a répété au Théâtre Antoine. Mmh. Et puis, oui, c'est vrai que c'est un nom évidemment prestigieux pour un théâtre évidemment. Toute déconne mise à part, on peut effectivement être inquiet devant un spectacle. Mais je viens de le jouer quand même presque 60 fois en tournée, un peu partout. Alors évidemment, j'ai une appréhension, mais je suis plus heureux de livrer le spectacle aux spectateurs, aux amis, aux gens qui l'ont pas encore vu. Mmh. Donc c'est plus une excitation joyeuse qu'une angoisse pétrifiante.
Bien, c'est votre premier passage en presque 1000 émissions de Pop. On peut donc considérer que c'est un événement. Ça veut dire quoi? Que vous êtes du genre à bien aimer vous faire attendre un peu ou...
Non, c'est parce que peut-être les circonstances. Sont pas, moi je suis un homme du présent, hein, donc si les circonstances sont pas là, et ben ça se fait pas, puis c'est tout.
Elles ont bon dos, les circonstances.
Oui, mais enfin je réclame pas non plus.
Non, hein. c'est vrai, mais ça fait un moment qu'on vous attend et qu'on a envie de vous avoir, Jean-Pierre. Vous serez également à l'affiche de la série Une si longue nuit, qui sera à découvrir à partir du 20 janvier sur TF1. Bon, on va parler de tout ça pendant cette émission, et comme il sera beaucoup question de feu et de flamme, Jean-Pierre Darroussin, je vous propose un morceau de Circonstances, c'est un morceau de Bruce Springsteen, I'm on fire.
Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you
Oui, I'm on fire et je ne suis pas le seul. C'est aussi le cas de Bruce Springsteen et de Jean-Pierre Darroussin, notre invité aujourd'hui. Et de chaleur, nous en avons besoin avec ces températures un poil frisquettes. Jean-Pierre Darroussin, avant de parler de Rimbaud au feu dans la suite de l'émission, parlons un peu de vous. Assez curieusement, pour quelqu'un qui aime bien ruer dans les brancards et qui est hypersensible à l'injustice, on vous identifie partout aujourd'hui comme un haut fonctionnaire des services secrets. Ben oui, parce que Jean-Pierre Darroussin, c'est aussi un agent secret.
The name's Bond. James Bond.
Oui, enfin, presque. Hein. Parce que grâce au Bureau des Légendes, on vous reconnaît même à l'étranger, ai-je entendu dire.
Oui, c'est vrai que c'est une série qui a été vendue dans plus de 70 pays, je crois. Donc, et comme ça a beaucoup de succès, moi, il se trouve que pour des raisons familiales, je fréquente assez la Suède et je me suis aperçu depuis que cette série s'est passée à la télévision suédoise que d'un seul coup, je n'arrivais plus à prendre les tramways tranquillement.
Pourquoi les gens viennent vous importuner, vous demander
non,
des
autographes, des selfies, ça les sidère, ils me reconnaissent, quoi. Alors que franchement, en Suède, en général, je suis pas très reconnu.
Non.
Je passe inaperçu.
Ils viennent vous voir, ils vous disent,
ça c'est plus le russe.
C'est bien. Je vois que vous avez l'oreille musicale. Alors au fond, avec votre air doux et sincère, vous feriez un bien meilleur agent que les différentes incarnations de James Bond. J'ai l'impression. Je veux dire. Moi, quand je vois arriver Daniel Craig, bah, si je suis méchant, je le repère direct. C'est-à-dire que vous pourriez facilement m'avoir.
Oui, mais on y a déjà pensé. Il y a quelques metteurs en scène plus loufoques que d'autres qui ont eu cette idée de me faire jouer un agent secret du type. Mais bon, ça a marché. Après, il y en a d'autres. À l'époque, il n'y avait pas encore les films qu'a fait Dujardin et tout ça, les OSS et tout ça. Ça n'a pas abouti. Il fallait attendre encore un petit peu avant que cette bonne idée loufoque atteigne le public.
Donc il n'est pas exclu.
Maintenant, oui, en tous les cas, ça va devenir de plus en plus drôle.
Et peut-être même en Suède. Est-ce qu'en fait, jouer, faire l'acteur, c'est proche d'une certaine manière de ce que font les agents secrets quand ils endossent une légende, une identité totalement construite? Alors, le risque de se faire trouer la peau en plus.
Pour acteur, ça peut arriver, parce que aussi, il y a parfois qu'on peut rencontrer des gens qui confondent le réel et la fiction, et on ne sait pas sur quel fou on peut tomber. Mais oui, c'est assez proche, mais sauf que nous, c'est toujours des ersatz, et c'est beaucoup plus rapide, ça dure pas, on n'est pas sous une fausse identité pendant des années, on est sous une fausse identité au maximum pendant un an, deux maximum, et même au théâtre, ça dure longtemps, mais l'identité au théâtre, la fausse identité, elle ne s'exerce que pendant 2-3 heures par jour. Mm-hmm. Au cinéma, c'est plus long. Au cinéma, l'identité, faut la tenir vraiment du matin au soir, parce que d'abord, on répète en même temps qu'on joue, et donc on est dans la recherche perpétuelle, et cette recherche fait qu'on est obligé d'être tout le temps sur le qui-vive et d'être le personnage en permanence toute la journée. Donc au cinéma, c'est un peu plus proche des agents secrets.
Jean-Pierre Darroussin, le public français vous connaît grâce à des rôles devenus quasi mythiques, de mes meilleurs copains au film de Robert Guédiguian, dans lesquels même s'ils sont tous très différents, on vous reconnaît toujours d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours vraiment une part importante de vous dans vos rôles. Vous êtes conscient de ça ou pas?
Pas du tout. Non mais pas du tout, mais c'est même une injustice totale, parce que moi j'ai l'impression d'être vraiment profondément un acteur de composition et que je vais être absolument méconnaissable d'un rôle à l'autre. Et bien sûr qu'il y a un alliage entre un personnage, c'est une fabrication avec qui part d'une matière première qui est un peu qui est proche quand même de notre génétique personnelle et de notre généalogie et de nos racines personnelles. Évidemment que j'ai des façons de réagir qui m'échappent. J'essaye au maximum de le travailler. Au théâtre, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup de temps de répétition et on peut vraiment contraindre son corps, contraindre sa façon d'articuler, et on peut vraiment changer ça. Au cinéma, souvent on vous demande d'abord on vous emploie pour ce que vous savez faire aussi. On y va un peu plus facilement.
Oui, mais alors le paradoxe de ça, c'est que si on vous retrouve dans tous vos rôles, malgré tous vos efforts, si je comprends bien, est-ce que ça pourrait vous amener à refuser certains rôles pour que surtout on ne vous retrouve pas dans cela?
Oh ben moi j'en refuse des rôles, mais j'ai pas pour ces raisons-là, pas pour des raisons de performance personnelle que je peux apporter dans le personnage. Si je refuse des rôles, c'est parce que soit l'écriture me plaît pas, soit que le propos ne plaît pas, ou soit que je sens pas souvent c'est parce que je ne sens pas l'entreprise si honnête que ça.
Pour beaucoup de gens, vous incarnez à l'écran un esprit de troupe, hein, que ce soit avec la famille Guédiguian ou les Bakri Jaoui. Vous semblez faire preuve au cinéma d'une fidélité qu'on imagine être celle des compagnies de théâtre. Qu'est-ce qui vous tient à cœur là-dedans ?
C'est ma formation. Je suis un gars des années 60. Hein. Moi, j'ai été élevé avec les Beatles, les Rolling Stones.
Les groupes.
Et donc, c'est ça qui m'a... C'était ça l'ambition quand on était jeune, c'était de réussir en groupe, c'était pas de réussir individuellement. Et donc cet esprit de troupe, de groupe, c'est toujours ça qui m'a porté, c'est ça que j'aime. Et d'ailleurs en ce moment là, je suis seul sur scène.
C'est totalement à contre.
Oui, bah c'est aussi parce que ça me permet de faire cette expérience aussi. Mais dès que le spectacle commence, le rouleau se déplie et le spectacle se déroule et tout ça, mais à la fin quand ça se termine et que je suis tout seul à saluer, eh ben j'ai un manque, j'ai pas de camarades autour de moi pour partager le plaisir, et c'est un petit manque quand même.
Jean-Pierre Darroussin, vous avez souvent dit vouloir devenir un vieil acteur. Ça avance ce projet?
Ça vient. C'est inéluctable. C'est peut-être déjà entamé.
C'était drôle, cette idée de devenir un vieil acteur. Mais c'est vrai. Quoi, un vieil acteur?
Mais parce qu'en fait, c'était ceux que j'admirais le plus. Je me reconnaissais dans cette... moi, quand j'étais un môme, les acteurs que j'admirais, c'était Harry Max, par exemple. C'était eux que je trouvais extraordinaires. Évidemment, aussi les Michel Simon, les gens comme ça, tout ça. Mais oui, donc, il y avait... Il fallait qu'il y ait de la trempe, quoi. Il fallait qu'il y ait de l'épaisseur, de la couche, de quelque chose, un naturel qui n'en est plus un parce que il est augmenté d'une couche de réalité énorme, quoi. Du temps passé, de la vie, de tout ce qu'on a vu et entendu. Et donc ça, j'ai compris assez vite qu'il fallait être vieux.
Jean-Pierre, dans votre fiche Wikipédia, je ne crois pas tout ce qu'il y a dans les fiches Wikipédia, mais enfin là, pour l'instant, c'est ce que j'ai découvert à votre sujet. Il paraît que vous avez vécu à la fin des années 60, je cite, hein, de débrouilles plus ou moins légales. Alors évidemment, je suis très curieux du côté moins plutôt que du côté plus. Vous pouvez nous dire maintenant de quoi il était question? Il y a évidemment prescription.
J'espère qu'il y a prescription.
On va le savoir très vite.
On cherchait des combines pour évidemment, qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie. Il y a un truc que c'était assez marrant, j'étais pas le seul à le faire à l'époque. Il y avait des traveler chèques. Vous savez, les traveler chèques, c'était un truc, c'était assez. Donc on achetait pour voyager, c'était pas mal. Puis on se les faisait rembourser quand on s'était fait voler. Donc il suffisait de se les faire voler, de se les voler soi-même, un petit peu déguisé dans une banque. Et puis après, on allait se les faire rembourser, quoi. Bon, voilà, c'était des petites arnaques à la banque. Mais qui permettaient de quand même de doubler, et c'était pas si négligeable quand on avait, quand on était pas, la misère, c'est encore autre chose. Mais en tous les cas, quand la vie était un petit peu plus dure pour payer son loyer, pour faire tout ça, quoi. Donc, on se débrouillait, quoi.
Mais je vous pose la question de votre rapport à la loi, parce qu'on va vous découvrir dès le 20 janvier dans le rôle du commandant Jean-François Berroyer de la brigade criminelle dans la série Une si longue nuit sur TF1. On va en reparler, tout à l'heure de cette histoire-là. Il y a surtout, évidemment, votre spectacle Rimbaud en feu qu'on pourra voir à partir d'après-demain, du 13 janvier au théâtre Antoine. De tout cela, nous parlerons dans un instant avec Charline Roux, qui va nous rejoindre. Il était temps, car nous étions un peu trop entre hommes, vous et moi, Jean-Pierre Darroussin. Je propose d'ailleurs d'écouter, avant cela, le morceau « Va » du groupe La Femme.
Mais Rimbaud aussi était un délinquant.
Eva, c'est la femme. Une assez bonne introduction à la poésie et donc à votre spectacle, Jean-Pierre Daroussin. Mais à propos de femme et de poésie, qui vois-je arriver avec sa harpe picarde, vibrante incarnation de la muse? Mais oui, la femme avec un grand F, Charline Roux.
C'est Charline. Pas une harpe picarde. Bonjour.
Charline, je vous présente notre invité Jean-Pierre Daroussin.
Charline,
direction l'année 1924.
Et c'est un homme enfermé dans sa chambre d'hôpital à Charleville qu'on découvre sur scène, un homme qui devise sur l'art, sur la vie, sur la folie, un homme qui décide d'en finir avec la poésie. Vous êtes seul en scène, avec pour décor un lit superposé, un tout petit bureau, et pour tenue, un jogging, des chaussettes trouées, un mot de ce costume qui est à la fois très parlant et un peu anachronique, il faut bien le dire.
Oui, ben c'est, il représente la volonté d'être décalé par rapport à d'abord à une forme de réalisme, et puis le spectacle il mélange toutes les époques, puisqu'on est tout autant dans une incarnation de quelqu'un qui est dans un asile, mais on est aussi en même temps dans sa tête et dans son délire. Donc ce costume, je l'ai essayé un jour en répétition et on s'est dit que ça marchait très bien. Ça surprend les gens au début, mais j'ai croisé pendant à la fin de représentation des gens qui travaillent en institution psychiatrique, et qui m'ont dit mais c'est dingue parce qu'ils sont tous habillés comme ça en jogging dans les institutions, donc on l'avait pas vraiment fait exprès, mais il se trouve que finalement ça correspond à une certaine réalité.
Et Charline a omis un accessoire très important, c'est une bouteille d'absinthe qui reviendra à de multiples reprises au fil du texte et dont on apprendra que c'est un excellent vermifuge.
Oui, parce que...
Pardon, c'est une petite parenthèse, c'était une parenthèse. Bon, Rimbaud en feu, ça donne ça.
J'avais des états d'âme ? Rien ! Mais qu'est-ce qu'on en sait ? En vérité, je vais vous le dire, moi... Le maudit poète maudit.
Rimbaud est surréaliste dans la pratique de la vie et ailleurs.
Il faut mépriser la mort qui rôde, créer de la vie, de tout son souffle.
Et Rimbaud en feu avec Jean-Pierre Daroussin, notre invité. Ce n'est pas écrit par mon ami Laurent Chalumeau, non ? Mais par Jean-Michel Dion.
Alors Rimbaud est mort en 1891, la pièce se déroule en 1924, il aurait eu 70 ans, et vous jouez en 2022. Comment est-ce que vous vous accommodez de toutes ces distorsions temporelles ?
Alors, le gros avantage du théâtre, c'est qu'au théâtre, on n'a pas besoin de prouver que ce qui se passe sur la scène, c'est la réalité. Les gens le voient, c'est du spectacle vivant, donc... Ce que voient les gens, et forcément, on est sûr que c'est vrai.
What you see is what you get.
Voilà. je n'ai pas la chance d'avoir cette connaissance de la langue anglaise.
C'est le bagou anglo-saxon.
c'est vrai que c'est justement, et c'est intéressant de jouer avec ça au théâtre, de jouer avec l'imagination et de la transmettre, cette imagination, ce plaisir de justement d'aller divaguer ailleurs, d'emmener le spectateur dans un voyage, de l'inciter à partir aussi sur ce tapis volant qui est la scène finalement pendant un temps, et de venir avec nous dans ce délire qui est un délire aussi qui fait réfléchir, qui amuse, qui est là pour le plaisir du spectaculaire et pour le plaisir de transporter aussi le spectateur ailleurs.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Ainsi s'ouvre la pièce par le prologue d'une saison en enfer. Le texte que vous délivrez sur scène est un mélange d'œuvres de Rimbaud, de pensées prêtées à l'auteur aliéné, dites à voix haute. Un texte écrit par Jean-Michel Dian, sur mesure, si je ne m'abuse. Comment est-ce que vous l'avez abordé, ce texte absolument enfiévré ?
D'abord avec circonspection, parce que je me suis dit, oh là là, comment on va faire ? Parce que le texte, il a été livré comme ça, brut, même si j'ai une complicité, c'est un ami, Jean-Michel, et on était pendant le confinement, on discutait au téléphone, et moi je cherchais à faire on m'avait un peu commandé, on m'avait filé une carte blanche pour faire un spectacle seul en scène, justement. Je me suis dit, bon, j'ai relevé le gant, et je vais essayer de faire quelque chose, mais je suis pas très bon en écriture, j'ai pataugé pas mal, et mon ami me dit, bon, si tu veux, je peux écrire quelque chose, laisse-moi faire, et comme lui, il a eu cette idée, c'est lui qui a eu l'idée de partir sur cet Arthur, sur ce personnage qui se prend pour un Arthur Rimbaud qui ne serait pas mort et qui continue à 70 ans à ressasser ses vieux démons.
Traverser
de fulgurance rimbaldienne, bien sûr. Ouais. Et donc, il m'a livré ce texte, je lui ai dit, bon, si on fait du théâtre, il faut qu'il y ait quand même de la monstruosité, de la folie, tout ça. Donc, on est parti dans ce truc un peu enfiévré, dans cet amour des mots, du langage, de mâcher du texte. Et après, avec Anna Novion, la metteuse en scène, on s'est dépatouillé pour en faire justement quelque chose de spectaculaire, pour lui donner de l'incarnation, pour le faire vivre, ce personnage, lui donner une dimension humaine, réelle, attachante. Et d'en faire un personnage qui, avec lequel on a, je crois, on a envie de connaître son âme, il me semble
d'avoir accès
à ce personnage-là, on le prend en amitié assez facilement.
Mais justement, vous-même, Jean-Pierre Darroussin, on est quand même sur France Inter, quoi, merde. Vous êtes plutôt rimbophile ou rimbolâtre?
Rimbaldolâtre.
Rimbaldolâtre. Alors?
Je ne suis pas rimbaldolâtre, je suis plutôt rimbophile. Mais de toute façon, c'est assez rare que je sois dans l'adoration, si. Alors, ça m'arrive de plus en plus quand même parfois d'être fan au point d'aller sur les lieux où les gens que j'ai bien aimés ont vu des choses et tout ça. Ça commence à me prendre un peu cette affaire-là. Mais tous les jours, dans le monde entier, il y a 1000 à 2000 personnes qui sont toujours à la recherche de choses, de mystères, d'essayer de trouver des choses sur Rimbaud, des traces, des choses comme ça. Il y a toujours des gens qui cherchent tout le temps. En Indonésie, en Espagne, en Hollande, en Suède, enfin partout, il y a des gens qui cherchent...
Une société secrète. qui cherchent
des informations sur Rimbaud, qui reste malgré tout un des grands mythes de...
Ils vont venir vous voir maintenant.
Je vais leur révéler beaucoup de choses.
Qu'est-ce que vous avez découvert d'ailleurs vous-même sur Rimbaud?
Moi, j'ai découvert à quel point, quel aventurier c'était. Ouais. Quel aventurier, c'est absolument dingue. Évidemment, son plaisir de n'être jamais là où on l'attend, de ne jamais vouloir être enfermé dans une étiquette, de toujours être anticonformiste, de toujours se battre pour être quelqu'un d'autre, de ne jamais se contenter d'être lui-même et de sa facilité. Et puis, s'engager dans l'armée pour partir en Espagne, et puis finalement déserter très vite une fois qu'il a touché sa solde, parce que c'était uniquement pour le pognon qu'il avait fait. Après, il s'embarque pour aller en Indonésie, et c'est pareil, il déserte dans l'armée hollandaise, il est obligé de se planquer pendant un an dans la jungle, on sait même pas ce qu'il a fait, mais il s'est planqué dans la jungle pendant un an, on sait même pas ce qu'il a fait. Après, il arrive à revenir, enfin, il fait feu de feu, c'est bien le cas. Il fait feu de tout bois, quoi, vraiment. C'est avec une rage de vivre, une énergie incroyable. Enfin, cette énorme capitalisation de mots.
Ouais.
C'est tout le langage, chaque c'est incroyable, ça ce puits de science de mots et de toute la génétique des mots. Comment chaque mot a ses racines, comment chaque mot a ses couches qui vont chercher très loin jusqu'au latin, jusqu'au grec, partout, tout le temps. Enfin, il tire le suc de chaque couche des mots. C'est passionnant.
Moi, je dis, vous n'êtes pas très loin du rimbaldolâtre. Pardonnez-moi.
Ça vient aussi. Ouais.
Bon, il est 16h.
Ça vient.
Il est 16h. On va continuer à parler de ce spectacle incroyable à partir de Rimbaud, autour de Rimbaud, de Jean-Pierre Darroussin, qui démarre après-demain au Théâtre Antoine à Paris. Mais pour l'instant, c'est l'heure des pop news.
Un documentaire en trois parties pour raconter 20 ans de la carrière d'un homme qui ne connaît que très moyennement le doute quant à son talent. J'ai nommé Kanye West. Un premier teaser vient d'être dévoilé et pose d'entrée l'ambiance. 2002, Kanye est avec le rappeur Rhymefest et l'équipe de tournage s'ensuit l'échange que vous allez entendre.
And also, I got Cootie on the camera. Rhymefest right there. Me and Fez got to an argument in the car. Y'all felt like it disrespected me, man. Trying to say I wasn't a genius.
But who are you to call yourself a genius?
Rhymefest a eu l'outrecuidance de demander à Kanye West au nom de quoi il s'autoproclamait génie. La réponse est sans doute dans Gene Use a Kanye Trilogy. C'est le titre et ça démarre le 16 février sur Netflix.
Bienvenue dans un monde de tradition qui prône l'excellence artisanale et la transmission dans le film de François Favrat, Compagnon. Naël, 19 ans, est passionnée de street art et contrainte de suivre avec d'autres jeunes un chantier de réinsertion. Hélène Agnès Jaoui, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes et c'est le vitrailliste Paul, Pio Marmaille, qui fait les présentations.
Bienvenue chez les Compagnons. Je vous présente notre mère.
Notre mère, genre Marie, Jésus et tout.
Toutes les maisons des compagnons, elles sont dirigées par une mère qui aide un peu les jeunes au quotidien. Pour un patron qui veut embaucher, un jeune qui est formé chez nous, c'est un gage de qualité.
Ça te dirait de passer un CAP chez les compagnons?
Vous me voyez dans votre truc de l'excellence, là?
Les compagnons, ce sera le 2 mars dans les salles.
Et en entendant cette petite virgule musicale, les amateurs de potagerie zinzin se sont tous mis au garde à vous. Vous l'avez reconnu, cette émission qui a fait les beaux jours de la chaîne MTV au début des années 2000, une émission de défi aussi débile que souvent hilarant. Le gang revient sur grand écran.
Hello, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass.
Johnny Knoxville annonce Jackass Forever dans une bande-annonce qui nous promet son lot de cascades folles. Le film sort début février aux États-Unis et on les attend ici de pied ferme.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Antoine Decaune.
Johnny Knoxville.
Et bravo, ouais. Charline. Bon, c'était facile en même temps. Ouais. Jean-Pierre Daroussin, reprenons notre discussion.
Ouais, moi, j'aurais pas trouvé. Hein.
Car je rappelle qu'à partir de jeudi, vous serez donc au Théâtre Antoine pour nous présenter Rimbaud en feu.
Et si je vous dis, j'ai embrassé l'aube d'été, rien ne bougeait encore au front des palais, est-ce que vous êtes capable de poursuivre Jean-Pierre Daroussin et quel souvenir est-ce que ça convoque chez vous?
Ça c'est un des poèmes que j'ai appris à l'école.
C'est votre première rencontre avec
oui,
Rimbaud?
Oui, c'est ma première rencontre avec l'aube. Avec Rimbaud, ouais, l'aube, ouais, l'aube d'été. C'est à travers ce... Alors, certaines, j'exagère parce que c'est possible quand même que le dormeur du Val a dû passer un petit peu avant. Mais en tous les cas, c'est avec ses...
Il a combien de trous rouges au côté droit?
2.
Bien. C'est un quiz.
Ouais.
Il est bien ce quiz. Très bon quiz.
Donc c'était un des premiers poèmes.
Oui, oui, l'automne, oui, absolument. L'aube d'été.
Est-ce que vous pensez qu'il fait partie de ces auteurs qu'il faut découvrir, accompagner, pour mieux l'éclairer? Je parle par exemple à un prof ou...
Ou un spectacle.
D'ailleurs, il y a beaucoup de classes qui viennent voir le spectacle et je vois que ça, en tous les cas, les jeunes, ça les scotche un peu quand même. Ouais. Quand même des types qui avant le rap, faisaient des trucs très très provocateurs aussi. Enfin, il y avait quand même des. Donc c'est assez fort quoi. Et non, c'est intéressant pour les jeunes. Évidemment, c'est un spectacle qui ne peut que les emballer parce que c'est la genèse de tout ce qui est protestataire. Mmh. C'est la genèse du refus des institutions. C'est la genèse de vouloir faire autrement, autre chose. Et il est là, quoi. Rimbaud, il habite ça. C'est lui qui est le premier jeune. C'est pour ça qu'il est ce mythe-là. Quand on voit sa photo à 17 ans, quand il est la photo que tout le monde connaît. Avant d'être il est beau, il est.
Ce regard translucide.
Mais il a quand même, c'est quand même un type qui prend le train tout seul comme ça. Il a 15 ans, il débarque à Paris. Et bon, après, il va en prison et on le ramène chez lui. Mais il revient et quand il revient, il scotche tous les poètes de l'époque. Ouais. Ils sont tous fascinés par ce qu'il a écrit, par la modernité, la pertinence de son travail qui remet complètement en cause, qui les renvoie à leurs études, vraiment quoi. Et lui, en plus ça, il a ce petit mépris, ce petit rire un petit peu ironique de se dire, mais ils sont pas forts, ces gars-là, quand même, parce que moi, j'ai 17 ans et je les écrase, quoi, vraiment, quoi, c'est... Et, non, c'est pour ça que, pour les jeunes, c'est une bouffée d'espoir, cet Arthur.
Et cet Arthur, comme vous dites, qui continue à fasciner, à inspirer de grandes figures contemporaines de la poésie et de la chanson, à l'instar de Patti Smith, qui a racheté la maison reconstruite de Rimbaud à Roche, dans les Ardennes, à l'endroit même où le poète a écrit Une saison en enfer. Et dans cet entretien écouté datant de 76, c'est elle qui raconte sa première rencontre avec le poète.
Ma première rencontre avec Rimbaud date de quand j'avais 16 ans. Je suis allée dans cette librairie et j'ai vu ce livre, c'était Illumination, celui avec la photo de Rimbaud sur la couverture. J'ai regardé ce gars et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Il m'a rappelé mon père et Bob Dylan. En fait, il m'a fait beaucoup penser à Dylan. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est cool. Il avait les cheveux longs, j'ai toujours détesté les gars avec les cheveux courts, je ne savais rien de la poésie, je pensais que les poètes étaient des mecs bizarres. Alors je me suis promenée le long de la rivière à Woodbury Creek. C'était une belle journée, j'ai regardé ce livre. Et il y avait quelque chose de tellement surprenant dans le langage de ce poème. Antique, gracieux, fils de Pan.
Et vous?
C'est bien les gens qui arrivent à raconter
leur première fois.
Oui, enfin leur intimité dans le rapport avec la découverte d'une œuvre ou choses comme ça.
Mais elle parlait comme vous de cette photo.
Oui, cette photo bah, on la connaît tous. Cette photo, elle fait partie du patrimoine dans le fin fond du cerveau. Tout le monde a la photo d'Arthur Rimbaud à 17 ans. Il est symbolique, il est culte, il est un mythe, comme même si lui justement après, ça l'a pas empêché de vivre sa vie, de vouloir renier en plus de ça tout ce qu'il a écrit. Il voulait que c'est Verlaine, c'est un peu grâce à Verlaine qu'on a retrouvé tous ces poèmes, parce que lui voulait tout brûler. C'est de la faute à Verlaine.
Jean-Michel Djian, l'auteur de Rimbaud en feu, dit de l'homme que vous incarnez sur scène qu'il vous ressemble. Alors, pas à nous de juger si c'est inquiétant, mais quels sont les points communs entre vous et cet homme en feu ?
Non, c'est parce que lui aussi, quand il a écrit ce texte dans lequel il s'est livré aussi lui beaucoup, avec beaucoup de poésie, en y mettant vraiment beaucoup de lyrisme, beaucoup dans ce long texte, dans ce poème finalement qu'il a écrit à travers sa connaissance de Rimbaud. Et quand j'ai commencé à le lire, il a senti que l'incarnation existait, donc il s'est dit, oh, mais c'est Rimbaud que j'ai devant moi. Voilà. Mais ça l'a fortifié, ça l'a transporté. Mais moi, les choses que j'ai en commun avec Rimbaud, c'est évidemment c'est l'idée d'être toujours en expérimentation, de toujours chercher, de toujours faire autrement, ailleurs, de jamais se contenter de son confort, de ce qu'on est, quoi.
Et Jean-Pierre Darroussin, ce personnage que vous incarnez dans Rimbaud en feu, dans tous les cas, interné dans un asile, c'est quoi? C'est forcément le sort des poètes, mourir jeune ou finir en hôpital psychiatrique?
Il y en a quelques-uns, en tous les cas, qui ont
fini comme ça.
Je pense à Antonin Artaud, par exemple, qui est aussi un grand poète. Qui a fini en hôpital psychiatrique, oui. Il y en a d'autres, évidemment, encore. Les noms ne me reviennent pas. Le premier à quel je pense, c'est Antonin Artaud.
Tel décalage avec la réalité, avec la vie.
Il y en a quelques-uns qui ont quand même réussi à rester dans une espèce de zénitude et de vivre leur contemplation et leur avec une force intérieure. Je pense à René Char ou des gens comme ça qui sont des grands poètes mais qui n'ont pas débordé dans le qui ont simplement été dans l'engagement. Et disons que leur force créatrice, ils l'ont mis dans l'engagement, et c'est intéressant aussi, enfin leur indignation qui était quand même qui était perceptible chez René Char. Et non, mais il y en a d'autres qui se sont embourgeoisés quand même ça arrive.
Bon, si avec tout ce qu'on vous raconte depuis 16 heures vous n'avez pas envie de courir voir Rimbaud en feu, c'est que j'ai vraiment besoin de changer de métier, moi. C'est à découvrir à partir de jeudi au Théâtre Antoine à Paris. Et puis j'imagine que vous allez le promener ce spectacle après.
Bah on l'a pas mal promené avant.
L'a promené avant. J'ai pris l'air avant.
Bah oui, parce qu'on devait le créer l'année dernière. C'est au moment de ça devait être fait en février 2000. Quand on était combien 21 l'année dernière.
Ouais. 21, ouais. Bon, Jean-Pierre Daroussin, après avoir parlé de poésie et de crime, nous parlerons de.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière?
Une bonne bière.
Ils sont séparés tous les deux, mais on n'est pas séparés tous les quatre.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière?
Une bonne bière.
De Philippe Catherine et de Dominica, du réalisateur finlandais Juho Kosmanen, de la série L'amour flou et de Pop Culture. Voilà, ça c'est pour le teaser. Et pour vous faire patienter, comme nous en parlions il y a quelques instants, je vous propose d'écouter un morceau de Patti Smith, Free Money.
Before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. I know they're stolen, but I don't be bad. I take that money, buy you things you never had. Oh, baby. On a high plane to a jet stream and take you through the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming.
Patti Smith, Free Money, c'était en 75 sur l'album Horses. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors, Ce son, ça n'est pas un son de flipper, non, c'est votre sonnerie de téléphone, oui. Jean-Pierre Darroussin. C'est ce qui vous évoque la pop culture, expliquez-moi vite pourquoi.
Oh, très vite, parce que pour moi, c'est le son des années 60, c'est les flippers, voilà, c'est quand je sortais de mes études et que j'allais directement au café pour jouer aux flippers, voilà, c'était ça, voilà.
Ah, j'ai l'impression que vous avez un appel. Attendez. Ah bon. Oui, ben c'est ça, vous avez un appel. Non, pas du tout. C'est l'appel de la pop culture, car c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Le livre que vous lisez actuellement, Jean-Pierre Darroussin, c'est « On ne reporte pas le printemps », sous-titré « David Hockney en Normandie » de David Hockney et du collectionneur d'art Martin Gayford. Charline, saviez-vous que nous sommes pratiquement voisins en Normandie, David Hockney et ma pomme, même si lui ne le sait pas.
C'est quoi déjà le nom de ces pommes normandes ?
Les rubinettes.
Ah, c'est ça. Là, en l'occurrence, pour le livre, c'est un manifeste qui célèbre la capacité de l'art à divertir et à inspirer. Il s'appuie sur des conversations et correspondances inédites entre David Hockney et le critique d'art Martin Gayford, qui est un ami et collaborateur de longue date. Et leurs échanges sont illustrés par des peintures et dessins, eux aussi inédits, réalisés par l'artiste sur son iPad depuis la Normandie.
Bravo, Charline. Mais alors, Jean-Pierre, pourquoi choisir « On ne reporte pas le printemps en plein cœur de l'hiver » ?
Bah, d'abord, j'avais lu quand même les autres. Ils ont commis quelques autres opus de dialogue et de conversation avec David Hockney. Et voilà, c'est un artiste qui me parle, comme parfois on sent des correspondances, ça peut paraître prétentieux, mais j'ai l'impression que je comprends tout ce qu'il dit, l'impression de vibrer de la même façon que lui, même si lui, il a évidemment expérimenté encore bien plus que moi. Et puis, finalement, il y a un petit rapport aussi avec Rimbaud, parce que voilà, c'est vraiment lui ce qu'on appelle aussi un voyant.
Oui.
C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui s'exerce et qui a travaillé le regard pour être imprégné des choses, pour vraiment ne pas passer à côté de quoi que ce soit et de regarder très très précisément, très profondément, de façon en plus de ça à produire une petite trace, une petite émotion de ce qu'il a pu regarder. Et il trouve des liens philosophiques, de pensée avec tous les éléments. Enfin, je veux dire qu'il y a toujours, et son amour des arbres que je partage aussi. Voilà, à chaque fois que je vois un arbre, moi aussi, enfin, il y a des arbres qui me touchent, qui me parlent. Je ressens leur énergie. Il y a la peau des arbres, la façon dont leur structure et ce qu'ils nous donnent et leur côté et l'immuabilité des arbres, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant.
On ne reporte pas le printemps, David Hockney en Normandie de David Hockney et Martin Gayford. Voilà la lecture actuelle de Jean-Pierre Darroussin. Côté cinéma, on va parler de Compartiment 6. C'est un film signé du réalisateur finlandais Juho Kursmanen. C'est le grand prix du jury au dernier Festival de Cannes.
Oui, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Charline, peut-on raisonnablement parler d'un huis clos avec Compartiment 6 ?
Raisonnablement. Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre en mer Arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu, une cohabitation improbable mais fructueuse.
Первый раз в поезде?
Нет.
Ну как будет по-фински? Я тебя люблю.
Хайста Витту.
Хайста Витту.
Mixé par les têtes Tamanegloquen, Jean-Pierre Darroussin. Merci de répondre à la maternelle du réalisateur pour lui faire plaisir, parce que je sais qu'il nous écoute. Pourquoi ce compartiment numéro 6 ?
Yo escadel mukabra.
Ça veut dire parce que ça me plaît beaucoup.
Oui, c'est ça, oui. Exactement.
Oui. Beaucoup d'émotions, c'est aussi un voyant qui va à travers les apparences. C'est ça ? C'est ce
que
j'ai dit,
c'est exactement. Oui, c'est ça. Et non, parce que je trouve que c'est un film qui réconcilie avec une certaine forme de cinéma que moi j'aime beaucoup, qui est un peu en demi-teinte, délicat, voilà, une chronique amoureuse, et cette rencontre improbable qui nous fait regarder à chaque fois les... Moi j'aime le cinéma qui fait que quand on ressort, on regarde les choses avec un autre angle. On regarde le monde et les gens différemment. Il y a quelque chose qui a fait changer votre regard. Et ce film-là, il m'apprend quelque chose, il m'apporte quelque chose dans ce qui se passe, dans mon envie aussi de peut-être de Grand Nord aussi, je sais pas. Enfin, en tous les cas, de Suède,
de Suède, on vous reconnaît dans les tramways.
Voilà, c'est ça.
Compartiment numéro 6. Bien, pour les séries, vous nous avez proposé plusieurs séries. Alors, dans le désordre, The Crown, Get Back et L'amour flou. Par patriotisme pop, nous parlerons donc de la dernière, la création originale signée Canal avec Romane Boringer et Philippe Rebaud. Série adaptée du film éponyme sorti en 2018. Charline, on raconte que la série serait sponsorisée par Alain Flelou, c'est vrai ça ?
C'est entièrement faux, Antoine. Découvrons donc le concept du sépartement, soit deux appartements séparés qui communiquent par la chambre des enfants. Étrange domaine que celui de Romane et Philippe qui, après 10 ans de vie commune, sont séparés mais continuent de s'aimer beaucoup.
Moi, c'est Romane, Doudou. Lui, ouais. C'est Philippe.
Ils sont séparés tous les deux,
mais on n'est pas séparés tous les quatre.
On a la bourre à l'école, vite !
Oh putain, à 7h du mat', ça sent déjà la bœuf et le chien.
Tu fais le petit déj chez toi et tu seras moins incommodé par l'odeur, d'accord ?
Si je pouvais éviter de retrouver le string de tes gonzesses dans les affaires de mes gosses, ça serait sublime, vraiment.
Eh, vous allez pas me ramener vos histoires de cul à l'hôpital, non ?
Moi, mes enfants, ils sont là tout le temps. Du coup, il y a Philippe à côté.
C'est folklorique.
Salut, Patrick ! Je fais que passer, je suis allé chercher mon linge. Parce qu'avant, on avait une machine, mais c'est Romane qui a eu la garde.
Extrait de L'amour flou, la série de Romane Boringer et Philippe Rebaud diffusée sur Canal. On dit que l'amour, c'est regarder dans la même direction, Jean-Pierre, mais quand c'est flou et qu'on n'y voit pas à 2 mètres, que faire ? Prendre un rendez-vous chez l'opticien ? Aidez-nous, s'il vous plaît.
Non, bah, on fait de la fantaisie, on fait du fantasque et on fait de la comédie et je trouve que Romane Boringer a remarquablement écrit cette série. Les dialogues sont magnifiques et l'interprétation de Philippe Rebaud et d'elle et puis de tous les autres aussi, Eric Caravaca, comme ça c'est doux, c'est chaleureux, on est chez soi, c'est tendre. Mmh. Moi, j'aime beaucoup ce travail. Moi, je regarde pas beaucoup des séries, j'y connais pas grand chose en série, parce que j'ai pas tellement de temps. Mais voilà, celle-ci, j'étais pris, je l'ai regardée.
Très bien, L'amour flou, idem pour la musique. Jean-Pierre Darroussin, vous nous avez cité de nombreuses références, à l'aide d'Aurel San à Dominique A. Oui. Le juste milieu étant ce featuring entre Dominique A, justement, et Philippe Catherine, qui s'appelle Bof Génération. Avant d'écouter le morceau en question, dites-moi en deux mots, pourquoi celui-là ?
Alors, c'est pareil, il y a quelque chose de chaotique, de foutraque dans ce truc qui vous permet à vous écouteurs ou spectateurs ou enfin quelqu'un qui consomme et qui goûte de la musique, ça vous permet d'être un peu chamboulé et de trouver votre propre plaisir, d'aller chercher votre propre façon d'écouter cette chanson, qui est quand même malgré tout extrêmement bien construite au niveau musical, parce que Philippe Catherine quand même c'est construit,
c'est d'horlogerie,
c'est très fort ce qu'il fait, et puis Dominica, je trouve que c'est un de nos meilleurs poètes actuels.
Écoutez, la preuve par le son, pas plus tard que tout de suite.
Bonjour. Viens là que je te bise, bien sûr on fait un selfie. Chez vous on fait 2 bis, chez nous c'est à l'infini. Il est Mimi le petit, on dirait son papy.
Ah il est décédé.
Vous m'envoyez navré.
Je vous envoie navré.
Vous m'envoyez navré.
Je vous envoie navré.
Vous m'envoyez navré.
Je vous envoie navré.
Vous m'envoyez navré. Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou.
Répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou.
Fou comme une paire de Ray-Ban à la fin de l'hiver.
Vous deviendrez fou. Fou comme le cheval qui perd son écuyère.
Vous deviendrez fou. Fou comme des gens qui s'entassent dans des bagnoles.
Vous deviendrez fou.
Au milieu d'autres gens dans des bagnoles.
Vous deviendrez fou.
C'est des zinzins qui nous gouvernent. On le sait depuis les cavernes. Si c'était moi à l'Elysée, je demanderais qu'on m'interne. Qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on m'interne. Qu'on me materne, qu'on me materne, qu'on me materne, qu'on me materne.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière ?
Une bonne bière ?
Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière ?
Une bonne bière.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière ?
Une bonne bière.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière ?
Une bonne bière.
Comme tous les garçons et les filles de mon âge, on aime nos poisons, nos prisons. Comme tous les garçons et les filles de mon âge, on aime des chansons sans passion. Nous c'était la bof génération,
bof génération.
On s'en foutait d'avoir raison. On voulait juste être là sans savoir pourquoi.
Je suis pas contre l'idée d'avoir tort. Je me suis pas demandé mon avis.
Répétez ça à l'infini,
vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou,
répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou,
vous deviendrez fou,
répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou,
vous deviendrez fou,
répétez ça à l'infini.
Vous deviendrez fou,
vous deviendrez fou,
vous deviendrez fou. Bob Génération, c'est signé Catherine et Dominique A. C'était la pop recommandation, vous deviendrez fou, du jour de notre invité Jean-Pierre Daroussin. Merci Jean-Pierre de nous avoir rendu visite aujourd'hui.
Merci à vous.
Demain c'est Daniel Auteuil qui occupera votre fauteuil. Un petit mot?
Eh bien, je le salue très 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 bas, mais je suis content que pour une fois ce soit lui qui suive mes pas, car ces derniers temps on s'est pas mal croisé dans les différentes tournées et tout ça. On est même été, là je l'ai suivi, c'était moi qui étais le jour d'après au musée Rimbaud à Charleville, il était passé la veille.
Bien, le message sera passé. Je rappelle que Rimbaud en feu, c'est au Théâtre Antoine à partir de jeudi, et ce que c'est évidemment plus que recommandé par Pop Pop Pop. Merci encore de nous avoir rendu visite. Merci Charline,
merci.
À demain.